La lumière du soir brille. Les ténèbres reculent. Sion apparaît. De la confusion de Babel, sortez. Les saints, sortez de partout. Ils sortent, ils sont la propriété de Dieu. Le corps saint du Seigneur. Église. Le temps est là. La gloire arrive. Criez de joie et chantez. Toi, consacré à Dieu, le peuple dispersé maintenant est rassemblé et uni. La Bible est notre règle à suivre. Et Jésus nous conduit justement, correctement. Frères et sœurs de cette race divine, nous n'avons aucun autre Seigneur que Jésus seul. Nous l'aimons et le suivons de tout notre cœur. Il est un refuge sûr. Le corps saint du Seigneur. La gloire de Dieu est là. Criez de joie et chantez. Vous qui êtes consacrés à Dieu. Le peuple de Dieu dispersé est maintenant rassemblé et uni. Le jour des sectes est résolu pour nous. Tout est passé. Par Jésus-Christ. Il nous a, par son sang, nous avons été rachetés. Et nous sommes baptisés du Saint-Esprit et remplis. Église sainte, le grand jour est là. Préparez-vous. Pour cette grande gloire, criez de joie et chantez. Vous qui êtes consacrés à Dieu, le peuple dispersé maintenant est rassemblé et uni. Oui, les vérités de Dieu nous libèrent. Nous a franchi. Dans l'église, notre Seigneur, il y a assez de travail à faire, à accomplir. Nous faisons de notre cœur ce qu'il nous dit. Sa parole est un ordre. Nous sommes heureux de le suivre. Oh, quelle béatitude merveilleuse! Corps du Seigneur, le grand jour est là. Criez de joie et chantez, vous qui êtes consacrés à Dieu. Le peuple de Dieu est rassemblé et uni. pierre vivante, Jésus Christ, bâtit son temple ici. Alors, regardez à Jésus et à lui seul. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison. Regardez qu'à Jésus. Toute personne qui a trouvé le Seigneur ici en tant que pierre du temple, et les pierres sont liées ensemble, unies par l'amour de Jésus-Christ. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison. Regardons qu'à Jésus. Avec zèle, cherchez des pierres pour le temple de notre Seigneur, qu'il joint seul dans l'édifice comme il le veut. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous sommes les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardez qu'à lui. Travaillez jusqu'à que l'édifice soit achevé et que la dernière pierre soit jointe. Car alors l'édifice sera terminé et nous irons au ciel. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison. Regardez qu'à Jésus. De l'eau de joie auprès de Jésus le Fils de Dieu, car cette source de bénédiction est encore aujourd'hui ouverte. Elle descend du trône de Dieu au bois de cette source au cœur, au bois de cette source de, au cœur. Toi qui es dans les besoins, bois, bois une part entière. Elle rafraîchit le cœur né de nouveau. Elle rafraîchit le cœur né de nouveau. Et guérit le cœur blessé. Au bois de l'eau de la joie, de l'eau de joie. Cette eau coule, claire et pure. Le cœur qui s'est consacré au Sauveur n'aura plus soif éternellement, qui aura bu de cette eau, au bois de cette eau, de cette source, au cœur, dans la détresse, au bois de cette source, cœur dans la détresse, bois une part entière, elle est à part, elle rafraîchit le cœur, né de nouveau, elle rafraîchit le cœur, né de nouveau, et guérit le cœur blessé. Au bois de l'eau de joie, ton Jésus t'accorde, te donne la coupe richement là. Oh, viens au Sauveur encore aujourd'hui. Il allégit ton cœur lourd. au bois de cette source, cœur dans la détresse. Au bois de cette source, cœur dans la détresse. Bois une part entière. Cette source rafraîchit le cœur né de nouveau. Cette coupe rafraîchit le cœur né de nouveau. Et guérit le cœur blessé. Au bois de cette eau de joie et prendre part à ce repos béatifié. Tu seras élevé au-dessus des douleurs terrestres. Tu auras la paix agréable et inexprimable. Au bois de cette source cœur dans la détresse, bois une part entière. Cette source rafraîchit le cœur né de nouveau. Cette source rafraîchit le cœur né de nouveau. Et guérit le cœur blessé. L'eau de joie étanche la répond à la soif. Alors bois-la entièrement. Et cette source t'accorde tout ce dont tu as besoin. Bois de cette source, cœur dans la détresse. Bois de cette source, cœur dans la détresse. Bois une part entière. Elle rafraîchit le cœur né de nouveau. Elle rafraîchit le cœur né de nouveau et guérit le cœur blessé. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous vous saluons fraternellement, chaleureusement. Au nom de Jésus, que nous sommes heureux de pouvoir être ici aujourd'hui. Nous voulons écouter sa parole. Nous voulons le vivre, l'expérimenter. Et nous voulons repasser dans nos cœurs ce qu'il a à nous dire et ce qu'il nous a promis, le vivre, particulièrement dans ce temps. Nous avons des visites, nous ne voulons pas manquer de les saluer particulièrement, notre frère Justin de l'Afrique du Sud, que le Seigneur te bénisse richement parmi nous. Nous avons le frère Justin de Kinshasa, toi aussi que le Seigneur puisse te bénir richement. Nous avons hier, nous ne l'avons pas vu, mais aujourd'hui je vois le frère Forestieri. Sois la bienvenue et que Dieu aussi te bénisse richement, que tu entreprends encore ce long trajet. Nous avons aussi de la Finlande, notre frère Michel avec sa famille ici. Et oui, toute la famille, presque toute la famille Paya est ici avec nous, le frère Dietmar, le frère Pekka Baum, le frère Wolfgang. Oui, avec sa famille, que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Nous avons aussi nos frères et sœurs qui entreprennent ce long trajet de l'Espagne. Ils sont ici pour avoir communion avec nous. Que le Seigneur puisse aussi vous bénir richement. Aussi nous tous, que le Seigneur puisse accorder à chacun ce qu'il a pris sur lui, récompenser tous ceux qui ont pris sur eux d'entreprendre ce long trajet pour être ici. Et comme la parole de Dieu dit, là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est parmi nous. Et nous sommes rassemblés en son nom, plus de deux ou trois. Et aussi de tous les autres pays ou bien régions de notre pays, vous tous qui êtes venus, nous vous souhaitons la bienvenue et nous nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Ensuite, le frère Radoval nous a remis les salutations de la Tchéquie et de la Slovaquie. Et nous remercions pour les salutations et je crois que nous voulons tous, dans la prière, nous tenir les uns pour les autres, particulièrement dans ce temps dans lequel nous avons remarqué, dans lequel nous sommes arrivés. Nous voulons nous lever et remettre ce temps. Et ensuite, le frère Helmut Rus viendra pour nous chanter avec nous les cantiques. Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion que nous avons d'être ici. Nous te demandons, passe par nos rangs, parle-nous par ta parole, Seigneur, que tu puisses te manifester en tant que le même, que ce soit pas seulement quelque chose qui est écrit en haut ici, qui vient de la Bible, mais que tu puisses vraiment te manifester en tant que le même. Tu vois comment est-ce que chacun est venu avec un désir. Tu peux répondre à ce besoin. Pour que tout soit dans ta volonté. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions de ce que tu es avec nous, tu es au milieu de nous et que nous pouvons nous confier en toi, que toi seul sois loué et exalté dans ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Je veux chanter deux cantiques avec vous. Nous allons le faire après la prédication de hier soir. Je crois que nous voulons louer le Seigneur après ce que nous avons entendu. Cela a touché mon cœur aussi et la foi. Nous avons eu la grâce de croire tout, de recevoir tout. C'était simple de croire, c'était simple pour moi aussi. Et quand on ne comprend pas peut-être tout, mais nous l'avons reçu dans la foi. Et si nous l'avons reçu dans la foi, alors Dieu aussi accordera la compréhension, accordera, ouvrira le sens pour les Écritures. Et nous voulons chanter deux cantiques de louange. En fait, j'avais pas trop envie de chanter, mais après la prédication de hier, vraiment, cela a inondé mon cœur. Mon cœur, nous voulons chanter le premier cantique. Oh, quel bonheur de le connaître. Je veux chanter Jésus. Connaître l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauve du destructeur. Dans la misère grand amour du Rédempteur Amen. C'est ainsi. Oui, chantons le prochain. Le numéro 2. Numéro 2.
Singe es mir noch einmal vor.
Doux message de grâce. Chante-le-moi encore.
Je te suis entendu la voix, divin appel d'amour. Mon frère, il s'adresse à toi, divin appel d'amour. Message de grâce, Christ, joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Oh, joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore pécheur, divin appel d'amour. Viens mon fils, viens à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, il veut guérir ton âme. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divin appel d'amour. Donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Ô Jésus, notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour.
Amen. Merci. Divin appel d'amour. Dans Actes des Apôtres, il y a un passage où il est écrit dans Apocalypse, dans Actes des Apôtres 13, qui, ceux qui ont écouté la parole, ils glorifièrent la parole du Seigneur. Et aussi, cette parole nous a atteints dans ce temps. Nous sommes reconnaissants et que le Seigneur puisse vraiment nous accorder la grâce. Que ce ne soit pas seulement que nous chantons de cette parole, mais que nous puissions être approfondis dans cette parole et qu'elle soit ancrée en nous et que nous puissions entièrement la mettre en pratique. Et là où c'est le Seigneur qui a pu mettre en nous le vouloir, c'est lui aussi qui pourra mettre le faire pour que nous soyons agréables. Nous sommes faibles, mais le Seigneur sait la disposition de notre cœur. Et que cette parole, est-ce que cette parole a vraiment pénétré tout notre cœur? Comme le frère l'a dit, nous sommes tous reconnaissants pour ce que nous avons entendu hier de la parole, pour ce que nous avons entendu concernant la gloire du Seigneur. Oui, cela nous a tous interpellés, comment tout a pris son cours et que nous avons reconnu qui a quitté cette gloire. Qui s'est dépouillé de cette gloire pour devenir semblable à nous, pour que nous puissions atteindre la béatitude, la rédemption. Et ça, c'est merveilleux. Quand on pense à ça, comment est-ce que le dessein du salut de notre Dieu est unique et merveilleux pour nous. Nous pouvons nous y fier entièrement. Le peuple d'Israël était un peuple privilégié particulièrement. Et c'est ainsi que nous l'avons entendu aussi hier soir. Et ça a été aussi la conclusion hier que toute cette randonnée était en forme visible, accompagnée de la gloire du Seigneur dans la journée, dans une nuit et dans la nuit, un feu, une colonne de feu. Et je dois penser aussi, alors que le frère Franck a fait dans cette prédication, cette déclaration, que dans notre temps aussi, la gloire a aussi souvent été vue, particulièrement dans le ministère du prophète, dans le ministère de frère Branham. Pourquoi? Pour attirer notre attention, l'attention du peuple de Dieu sur ce qui a été placé par le prophète de la parole sur le chandelier, a été placé par le prophète sur le chandelier venant de la parole, par la parole. Et personne ne peut se glorifier. Il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de ce que nous puissions être ramené dans l'état qui existait dans l'Église primitive et que la parole puisse s'accomplir. Celui qui reçoit un prophète, parce qu'il est un prophète, en tant que prophète, recevra la récompense d'un prophète. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, que nous puissions recevoir, accepter, accueillir ce que le prophète a eu à dire de la part de Dieu. Quand le Seigneur envoie un homme, même si nous n'avons pas été présents, et mais nous sommes aussi aujourd'hui entourés d'une nuée de témoins qui ont pu voir et entendre et rendre témoignage. Donc il ne s'agit pas seulement de ce que ces témoins ont dit, de ce qu'ils ont vécu, mais ils nous ont prêcher ces choses avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Et c'est merveilleux et c'est glorieux de voir cela. Nous lisons tout de suite une parole d'introduction dans 2 Chroniques. Et j'ai constaté hier, alors qu'il a été dit, pendant 40 ans, la gloire du Seigneur était avec le peuple d'Israël. La colonne de feu et la colonne de nuée. Et il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Et quand de telles choses sont là, cette parole m'interpelle toujours de nouveau, que c'est important aussi. Alors nous pouvons demeurer humbles. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais 1 Corinthiens 10, il est dit que dans la plupart d'eux, le Seigneur n'a pas eu son bon plaisir. Et seulement 2 sont rentrés, ou bien alors très peu sont rentrés dans le pays de la promesse, Josué et Caleb. Et ensuite, il est dit là-bas que ces choses ont été écrites comme pour nous qui ont atteint la fin des temps, comme un exemple, un avertissement pour nous. Nous qui voyons que le temps se rapproche toujours plus, et cela m'a beaucoup touché. Bien-aimés frères et sœurs, souvent ici, en cet endroit, pas de mon temps, mais il y a des gens ici qui ont vu la gloire du Seigneur, qui ont vu, qui ont témoigné une lumière, un arc-en-ciel. Et comment est-ce que le Seigneur se manifeste, cela a été témoigné, mais tel qu'il le fait, cela, il le fait dans sa souveraineté. Mais où sont aujourd'hui ceux qui peuvent rendre témoignage de la présence de Dieu? Et il s'agit aujourd'hui d'attirer l'attention à la parole de Dieu. Dieu fait pas des choses comme ça pour les faire, mais c'est pour que l'attention du peuple de Dieu soit attirée sur sa parole. Il s'agit pas seulement de parler, mais d'être dans la vérité, pas seulement de parler, de dire que nous avons la parole de Dieu révélée, mais que nous puissions être trouvés dans la parole et que, comme des petits enfants, nous puissions permettre au Seigneur de nous interpeller, de nous parler et avec le zèle de nous trouver dans sa parfaite volonté, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Il n'est pas seulement écrit pour rien dans 1 Corinthiens au chapitre 4 que Paul dit en relation à lui et aussi à Apollos, que nous devons apprendre de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Loué soit le nom du Seigneur pour cela. Oui, et nous pouvons reconnaître qu'il s'agit des choses ici qui ont été prononcées dans l'ancienne alliance et il s'est révélé dans le Nouveau Testament. Lisons dans 2 Chroniques, 2 Chroniques, dans 2 Chroniques, le chapitre 5. Il s'agit ici de la gloire de Dieu, 2 Chroniques, chapitre 5. 2 Chroniques, chapitre 5. 2 Chroniques, chapitre 5. Verset
7.
Les sacrificateurs portèrent l'arche avec l'alliance de la loi du Seigneur à la place qui lui était destinée. Amen. Cela déjà m'interpelle. À la place qui lui était destinée, dans la pièce arrière du sanctuaire, de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Nous avons aussi, dans Nombre, nous avons lu que Moïse et que Aaron sont allés dans la tente d'assignation, dans la tente de révélation, et le Seigneur parlait avec eux sur la plaque. Et ici, il est dit verset
10.
Les chérubins, verset 8, d'abord, les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et les barres par-dessus. Verset 10. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb lorsque le Seigneur fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Verset 10. Donc il a lu le verset 8 et le verset 10. Ici nous voyons, nous avons lu, l'arche a été placée à la place qui lui était destinée. Et à cette place, il n'y avait rien que ce que Dieu avait ordonné à Moïse d'écrire. Et il a placé dans l'arche. Et dans l'arche, il n'y avait rien d'autre que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb. Amen. Ça, c'est mon désir. Rien d'autre que la parole de Dieu. À 100%. Sola scriptura. Seulement les Écritures seules. Et alors, c'est ainsi que cela s'est passé. Au verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et ensuite, ça continue ici, et ensuite, au verset 13. B. Les cymbales et les autres instruments et s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer le Seigneur, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent le Seigneur par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 14, les sacrificateurs, la fin du verset 15, du verset 13, la maison du Seigneur fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Amen. Ici, il y a beaucoup dans ce verset qui est contenu. On peut aussi ressortir beaucoup de choses. Pour moi, une grande leçon de ce que nous avons entendu hier. Pas seulement la gloire du Seigneur et ensuite on passe d'année en année. Et quand il s'agissait pour les Israélites d'entrer dans le pays de la promesse, durant toutes ces années, l'attention, la gloire du Seigneur était parmi le peuple. Et il y a eu seulement, malgré tout, seulement deux qui vraiment mettaient en pratique ce que le prophète avait dit, qui ont réellement cru ce qu'il avait reçu comme révélation et témoigné au peuple de Dieu. Pas tous. Et pour moi, c'est une grande leçon dans ce temps. plus nous voyons le temps s'approcher et plus fermement nous devons rester attachés à la parole. Pas seulement en parler et nous rendre nous-mêmes un témoignage ou que nous sommes dans la parole, nous savons la parole, mais vraiment examiner si c'est vraiment le cas. Parce que nous vivons dans un temps très sérieux, comme déjà dit, pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et là, on pourrait donner plusieurs exemples, comme dans les différents motifs aujourd'hui, des choses sont faites, où on peut se poser, où est pour cela un verset dans les Écritures qui témoigne ce qui est fait ici et qui justifie ce qui est fait ici. Revenons aux Écritures. C'est seulement ça qui aide. Tous ceux qui se sont attachés à la parole du prophète ont reçu la récompense d'un prophète, même si le prophète était resté, même si Moïse n'est pas entré dans le pays de la promesse, mais Josué et Caleb sont entrés parce que dans leur bon cœur, ils ont gardé et contre toutes circonstances et adversité, ils ont dit, nous sommes plus que capables d'entrer en possession du pays. Et si nous croyons que Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour habiter parmi nous par Jésus-Christ, oui, alors qu'est-ce qui nous a pas tout donné? Qu'est-ce que nous voulons dire que nous sommes riches et que nous avons besoin de rien? Non. Mais il nous a tout donné pour que pour ce chemin qu'il a lui-même aplani, nous puissions y marcher et pas rester, nous arrêter quelque part et dire, maintenant nous devons attendre quoi? Attendre le Seigneur. Je ne sais pas. Peut-être que le Seigneur est déjà allé devant nous. Nous n'avons pas tenu le pas. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et tout ce qui nous est présenté en de bonnes connaissances, en des paroles pieuses, tout doit se laisser examiner par les Écritures et tout doit être retrouvé dans les Écritures. Sinon, heureux sommes-nous, frères et sœurs. Comment est-ce que nous voulons, parmi nous, voir la gloire de Dieu se manifester? Si nous ne revenons pas aux Écritures en toutes choses, et là, nous avons lu dans Chronique que pour l'arche, il y avait une place destinée. Et ici, nous voyons les sacrificateurs qui s'étaient sanctifiés et nous voyons la louange comme reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait. Alors, comme c'est écrit ici au verset 14 de 2 Chroniques 5, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Loué et remercié soit le Seigneur pour cela. Nous pouvons regarder à ces choses. Nous voulons apprendre dans la foi à recevoir ces choses qui nous sont déjà préparées et ne pas regarder aux circonstances. Nous sommes plus que capables, pas de nous, mais par grâce, aucun mérite. Tu es toi et toi seul, tu es toute chose. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce en écoutant sa parole. Levons-nous encore pour prier. Oui, Père Céleste, à toi soit la louange, la gloire et l'adoration de ce que tu nous parles par ta parole. Ça n'a pas d'importance où nous lisons. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné dans ce temps. Nous te remercions de ce que dans ce temps, nous avons la grâce de recevoir tout ce que tu fais. Et nous te remercions de ce que, Seigneur, nous avons la grâce de reconnaître, Seigneur, les ministères que tu nous as donnés. Et par ces ministères-là, nous écoutons ta parole et nous te remercions de ce que nous désirons ta parole. Nous désirons écouter ce que ta parole a à nous dire profondément dans notre cœur. Nous pouvons dire, nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Louer et remercier, te soit apporté de la louange de ce que tu nous as transmis ta parole révélée. Et nous voulons, Seigneur, demeurer dans cette parole. Nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions de ce que tu es le même. Et de ce que, Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, mais que tu nous conserves, nous te remercions pour cela. pour ta fidélité et ta grâce. Sois maintenant avec nous et que ta parole, que nos cœurs soient ouverts et que, Seigneur, que chacun reçoive ce qui est dans ta volonté, qui est dans son cœur. Dans le nom de Jésus, amen. Nous devons, dans la foi, prendre Dieu au mot, le prendre à sa parole. La foi sans les actes qui l'accompagnent est sans force, sans sens. La foi doit être suivie d'œuvres. C'est pourquoi le Seigneur a dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. La foi qui vient de la parole de Dieu doit être suivie de ce que Dieu a promis dans sa parole. Est-ce clair? Cela doit suivre, car la foi vient de la prédication. Et la prédication vient des paroles de Dieu. Pas d'un article de journal ou de... mais de la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que se trouve ce que Dieu nous a promis. Et il est également confirmé que beaucoup l'ont expérimenté. Si nous étions les premiers, nous ne saurions peut-être pas tout à fait comment faire. Mais tout le Nouveau Testament témoigne de ce que Dieu a fait parmi ceux qui ont cru en lui. Cela commence déjà avec Marie, et il y a ce beau verset. Oh, bénis celle qui a cru, car il te sera fait tel que cela t'a été promis. Luc 1, verset 45. On peut le lire. Si nous croyons, nous avons accepté la parole de la promesse de Dieu, et alors l'Esprit vient pour rendre cette parole vivante. Nous croyons que par la proclamation de l'Évangile, ce qui s'est passé a été rapporté dans les Évangiles doit se reproduire. La proclamation de l'Évangile ne peut se faire en parole seulement. Alors nous pourrions alors tous rester chez nous à la maison et lire la Bible là-bas. Cela suffirait alors. Non, si nous nous réunissons, c'est pour mettre en évidence ces choses divines, pour les rapprocher de nous, pour qu'elles prennent vie en nous, afin de les vivre et les expérimenter ensuite personnellement. Nous nous réunissons justement pour expérimenter Dieu, pour vivre Dieu. Cela fait aujourd'hui quatre ans, jour pour jour, que j'ai entendu cette parole. Rassemble-moi mon peuple, avec lequel j'ai conclu une alliance par le sacrifice. Psaume 50. Nous sommes ici rassemblés, pas seulement rassemblés, mais rassemblés au nom du Seigneur. Et parfois, je me surprends à penser que même en tant que croyants, nous avons nos propres imaginations sur ce qu'est un homme de Dieu. Regardez-les tous dans la Bible. Chacun était tel que Dieu l'avait fait. Et aucun ne jouait la comédie. Ils étaient tous des hommes, même si la parole de Dieu leur avait été adressée. Mais, je voudrais souligner une chose. Lorsque David dit dans le psaume 139, « Si je me couche au séjour des morts, ta main me... » ressortirait de là-bas. Ou bien en enfer, tel que c'est écrit, psaume 139, verset 10. Si nous voulons être honnêtes, nous sommes tous couchés là-bas, mais nous pouvons être tout aussi honnêtes et dire, Dieu, le Seigneur a capturé la prison, nous en a sortis, nous a libérés. et nous a pardonné par grâce. Nous ne restons pas là où nous nous sommes couchés. Ce serait terrible. Nous appartenons à cet endroit.
Amen.
Nous appartenons à l'endroit où Dieu nous a destinés et où il a préparé les choses pour nous. Gardons cela sous les yeux, même lorsque nous enseignons que nous pouvons expérimenter Dieu personnellement, que nous devons expérimenter Dieu. J'ai alors pensé, quand dans une maison, il y a des réparations qui sont nécessaires, par exemple, ou bien il y a une coupure de courant, ou bien il y a quelque chose qui doit être fait, alors il y a toujours des spécialistes. Et cette pensée m'est venue aussi. Le Seigneur est tout. Il est sauveur. Il est guérisseur. Il est libérateur. Si quelque chose ne va pas comme il le devrait, nous l'appelons. Il aura le temps. Il ne repoussera pas ou ne remettra pas à plus tard. Il viendra. Oui, il est, parce qu'il est déjà là. Si nous croyons, il est là pour aider et bénir. Commençons par 2 Chroniques. Nous lirons ici les derniers versets du chapitre 6. Puis jusqu'au chapitre 7, verset 3. 2 Chroniques, chapitre 6, du verset 40. Maintenant, donc, mon Dieu, que tes yeux restent ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 41. Et maintenant, lève-toi, Seigneur mon Dieu, vers ton lieu de repos, toi et ton arche puissante. Que tes sacrificateurs, Seigneur mon Dieu, se revêtent de salut et que tes fidèles se réjouissent dans le bonheur. Verset 42. Ô Seigneur mon Dieu, ne rejette pas ton oint. Souviens-toi des grâces que tu as promises à David, ton serviteur. Chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé sa prière, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire du Seigneur remplit la maison du temple. Verset 2. De sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le temple du Seigneur. Parce que la gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Verset 3. Quand tous les Israélites virent le feu descendre et la gloire du Seigneur, étendu sur le temple, ils s'agenouillèrent, le visage contre terre sur le pavement de pierre. Ils adorèrent et louèrent le Seigneur en disant, car il est bon, car sa grâce est éternelle. Quelle parole merveilleuse! Nous avons ici une parole tout à fait merveilleuse. David avait dans son cœur, et il était un homme selon le cœur de Dieu, ils avaient le désir de bâtir une maison au Seigneur. Il dit dans 2 Samuel 7, verset 2, « Il n'est pas convenable que je demeure dans une maison en bois de cèdre, alors que l'arche de l'Alliance est sous des tentes. Alors le Seigneur lui dit, le désir que tu as est bon, 1 Chronique 22, verset 8, mais tu es un homme de guerre, tu ne bâtiras pas la maison, mais ton fils la bâtira. Le temple était maintenant construit, mais David avait les plans, tout le matériel, il avait tout prévu. Et maintenant le temple était construit. Et puis vint la prière pour que Dieu soit présent lui-même et rencontre son peuple là-bas où il avait placé son nom. Là où le peuple de l'Alliance se réunissait devant sa face, là, le Seigneur devait entendre depuis le ciel. Et c'est ce qu'il a fait. Le Seigneur voulait répondre depuis le ciel, répondre. C'est ce qu'il fit. Je voudrais que nous comprenions aujourd'hui que le Seigneur tient toujours sa parole. Plutôt que sa parole me trompe, le ciel tombera. Ce n'était pas la faute de Salomon ni celle de David. Dieu avait parlé et il a tenu parole. Peu importe que quelqu'un ait toujours suivi ses voies ou non, Dieu ne change pas son plan. Dieu tient sa parole jusqu'à ce jour. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ici, il est question de la gloire du Seigneur, du feu de Dieu qui est descendu pour remplir le temple. Nous parlons ces jours-ci de la gloire du Seigneur. Et si vous l'avez observé, ce matin, nous avons lu que la nuée était sur la tente, mais que Moïse était dans la tente, et que le Seigneur lui parlait là. La nuée de gloire était sur la tente. Le Seigneur était dans la tente pour parler à Moïse. La gloire était sur les cours de Bethléem. Mais le Seigneur était dans la crèche. Il peut faire ce qu'il veut, se révéler comme il le souhaite. Nous ne pouvons pas classer Dieu avec nos pensées. Il se révèle d'une manière qui dépasse notre compréhension. Le peuple d'Israël était sur le mont Sinaï ainsi que le feu et la voix de Dieu retentit du ciel. L'avez-vous lu? Vous pouvez le lire dans Néhémie où il est écrit très clairement que le Seigneur est descendu dans le feu sur la montagne. Mais que la voix retentissait du ciel. Néhémie, chapitre 9, la deuxième partie du verset 5. Néhémie, chapitre 9. Louez le Seigneur, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que ton nom glorieux soit loué, qui est au-dessus de toute louange et de toute gloire. Verset 6. C'est toi qui es, Seigneur, toi seul. C'est toi qui as fait les cieux et le ciel suprême avec toute leur armée. La terre avec tout ce qui s'y trouvent, les mers avec tout ce qu'elles contiennent. Et c'est toi qui fais vivre tout cela et que l'armée céleste loue. Je vais encore trouver l'autre passage que je cherchais, en fait. Qui parmi vous le connaît par cœur, nous avons une leçon biblique. Où le Seigneur est descendu avec ou dans le feu et a néanmoins parlé depuis le ciel. Frère Rousse va le trouver tout de suite, puis je le lirai. Maintenant, je voudrais passer au Nouveau Testament, à l'Épître aux Corinthiens. Dans le Nouveau Testament, je voudrais lire 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Verset 7. Non, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Avec Dieu, tout est prédestiné. Christ était prédestiné avant la fondation du monde à mourir comme agneau de Dieu. Nous étions destinés avant la fondation du monde à devenir croyants et à être béatifiés. Tout ce qui a trait à Dieu n'est pas temporel, mais éternel. Et le plan de salut de notre Dieu a été conçu depuis toute éternité. Il est écrit ici que nous devons être glorifiés. C'est à cela que nous avons été prédestinés. Il ne s'agit pas seulement de devenir croyant, de mener une vie pieuse dans ce monde, mais au jour glorieux que le Seigneur a préparé, qui est déjà fixé, lorsqu'il reviendra pour nous changer à son image, où ce qui est périssable revêtira l'impérissable et ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Alors s'accomplira la parole. La mort est engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54. Maintenant la mort est vaincue. Mais alors elle sera engloutie. Et nous nous en réjouissons. C'est pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse, et la mort ne sera plus, Apocalypse 21, verset 4, plus de souffrance, plus de cris, plus de douleur, et Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Il est ici question des parfaits. Dans 1 Corinthiens 2, ce serait présomptueux de la part d'un être humain de dire « Je suis parfait ». On ne saurait quoi répondre à cela. Il faudrait le laisser dans le soupçon. Le laisser dans le soupçon, car il ne sait pas ce qu'il dit. C'est là un aspect, à savoir l'aspect humain. Mais lorsque Dieu dit, soyez parfaits, Matthieu 5, 48, comme votre Père céleste est parfait, nous devons considérer l'autre aspect alors, à savoir le côté divin. Et reconnaître avec reconnaissance que Dieu n'a pas fait les choses à moitié, mais qu'il a accompli quelque chose de complet en nous, qu'il a créé quelque chose de parfait en nous. C'est pour cette raison qu'il est écrit par sagesse parmi les parfaits. Croyez-vous tout cela? Ce n'est pas toi et moi qui venons ici, et nous imaginons d'être quelque chose. Mais nous ne laissons pas l'ennemi nous disputer ce que Dieu a fait de nous. Je l'ai déjà dit hier soir. Nous ne sommes pas ce que le péché et certaines choses ont fait de nous, mais ce que Dieu a fait de nous. Au verset 8, ça continue. 1 Corinthiens 2, verset 8, il est écrit ensuite, « Cette sagesse, aucun des puissants de ce monde ne l'a comprise. Car s'il l'avait reconnue, cette sagesse, il n'aurait pas livré à la mort le Seigneur de la gloire. » Qui a été livré à la mort? Qui? Je vous le demande. Qui? Je viens de le lire. Il n'aurait pas livré à la mort le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Pensons au psaume. À ce psaume très puissant. Est-ce le psaume 24 peut-être? Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? Le Seigneur des armées. Il est puissant dans les combats. Psaume 24, verset 8. Ouvrez-vous, porte éternelle, et que le roi entre. Verset 7, psaume 24. Pour nous, Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Mais nous le voyons aussi dans son humiliation, abaissement, méprisé, raillé. Il suit son chemin. Cela aussi était écrit et devait s'accomplir. Il est écrit plus loin ici dans 1 Corinthiens 2, verset 9 ensuite. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur d'un homme. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ces jours-ci, nous parlons de la révélation surnaturelle de Dieu, de la lumière, de la nuée, de la gloire. Et j'aimerais lire quelques passages à ce sujet. Un autre extrait de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 6. Ici, il est écrit, c'est lui qui nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Verset 7. Or, si le ministère qui apporte la mort a été glorieux avec ses lettres gravées sur des pierres, et si les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage, qui pourtant était passager. Donc l'éclat qui disparaissait. Exode 34, 29 à 35, verset 8. Comment le ministère de l'Esprit n'aurait-il pas une gloire encore plus grande? Verset 9. Car si le ministère qui apporte la condamnation possède la gloire, le ministère qui apporte la justice doit être d'une gloire encore plus grande. Verset 10. Oui, la gloire qui existe là-bas disparaît complètement dans ce rapport, par rapport à la gloire débordante. Verset 11. En effet, si ce qui est transitoire possède la gloire, ce qui est permanent doit être d'une gloire encore plus grande. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour toutes ces paroles des Saintes Écritures. Nous avons déjà lu dans l'Ancien Testament, il y avait de la gloire au jour de Moïse, de la gloire à différentes époques. Les prophètes ont déjà vu cette gloire de Dieu. Dans le Nouveau Testament, cette gloire est surpassée. Faisons maintenant une comparaison pour constater si nous ne sommes pas un peu à la traîne, si nous n'avons pas laissé trop de place à l'incrédulité, si nous n'avons pas encore pris pleinement conscience des droits que Dieu nous a donnés, si nous remettons sans cesse en question la rédemption qui nous a été accordée et le pardon, et si nous tournons en rond. Ne laissons pas l'accusateur des frères nous retenir plus longtemps. Regardons vers le Seigneur qui s'est vidé de son sang sur la croix, qui nous a rachetés et qui nous a appelés par notre nom. Lui qui a conclu une alliance éternelle avec nous et qui a dit, Ésaïe 43, 25, « Je ne me souviendrai plus de vos péchés. » Une réconciliation éternelle, une expiation a eu lieu. Un grand jour de réconciliation. Lisons 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Voici ce qui est écrit au verset 16. 1 Timothée chapitre 6. Verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance. Éternel. Amen. Dieu habite dans une lumière à laquelle personne n'a accès. Personne ne peut y pénétrer. Les hommes de Dieu ont vu cette gloire, mais ils ont été éblouis par cette splendeur. Ils n'ont pas pu voir Dieu, le Seigneur, dans cette lumière. Dieu est caché dans cette lumière. Mais il s'est manifesté. Il est sorti et s'est révélé afin que nous puissions le voir, afin que nous puissions le contempler. C'est en fait ce que nous avons repris dès le début de Luc, chapitre 2, au verset 9. Luc 2, verset 9. Et voici un ange du Seigneur vint vers eux. Et la gloire du Seigneur resplendit, ou alors l'éclat de la lumière resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Le Seigneur était sorti de la lumière, mais la lumière descendait néanmoins. Et maintenant, je vous montre le lien, l'union entre le domaine humain et le domaine divin. Dieu devait accomplir les deux. Nous lisons à ce sujet Matthieu, chapitre 3, un passage que nous connaissons tous très bien, Matthieu, chapitre 3. Car nous ne considérons pas seulement ce qui est arrivé au Seigneur. Nous devons comprendre ce que cela signifie pour nous, ce qui en dépend. À quoi cela me servirait-il de prêcher jusqu'à minuit sur la manière dont Dieu s'est manifesté, s'est révélé sous la lumière, la splendeur, la gloire, si nous ne savions pas ensuite comment nous nous inscrivons dans ce plan, quelle est notre place? J'aurais alors prêché en vain. Je n'aurais éclairé qu'un seul aspect. Matthieu, chapitre 3. Ici est représenté de manière imagée comment la réconciliation, la connexion entre le ciel et la terre a eu lieu. Selon les paroles du psaume, la justice et la paix s'embrasseront. Psaume 85, verset 11. Et quelle est la parole suivante? Je vais vous le lire tout de suite. Mais d'abord, ici Matthieu chapitre 3. Ici nous lisons au verset 15. Matthieu 3, verset 15. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour cette fois-ci, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui nous a été prescrit. Alors Jean lui céda. Verset 16. Et quand Jésus eut été baptisé et qu'il sortit de l'eau, voici que les cieux s'ouvrirent à lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ou bien alors, rester sur lui. Rester sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. De quoi s'agit-il ici? Le corps dans lequel Jésus a marché ici sur terre est né dans ce monde, bien qu'il ait été engendré par l'Esprit comme tout autre corps est né. Enveloppé de l'ange et couché dans une crèche, il a pris l'apparence d'un être humain. L'Esprit devait venir sur ce corps pour revendiquer le droit divin sur ce corps, afin que ce corps puisse être transfiguré et retourné à la dans sa condition spirituelle, dans le corps spirituel, afin de nous donner également à nous qui sommes dans un corps de chair la possibilité, parce que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, d'être transformés de ce corps de chair en un corps spirituel. Je vais vous montrer à partir de deux passages de la Bible que le Seigneur a pensé à nous. Et cela me réjouit au plus haut point. Le premier, le psaume 85, le passage que je voulais justement citer, psaume 85, verset 10 à 12. En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Verset 11. La grâce et la fidélité se rencontrent, ou bien alors s'embrassent. La justice et la paix s'embrassent. Verset 12. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Il fallait créer un lien du ciel avec la terre. C'est pourquoi Dieu s'est préparé un corps terrestre selon la parole de l'Écriture. Hébreux 10, verset 8. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Je viens faire ta volonté, ô Dieu. Ici, la volonté de Dieu devait s'accomplir. Seulement avec un seul? Non! C'est vrai avec lui, mais pour tous, dans le Fils de Dieu, le bon plaisir de Dieu repose sur tous les fils et les filles de Dieu. Sur tous les fils et toutes les filles de Dieu. Ce qui s'est passé pour nous tous. Je vous le lis, le psaume 2, afin que vous sachiez que cela est effectivement écrit. Psaume 2, verset 7. Laissez-moi faire connaître le dessein du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai moi-même engendré aujourd'hui. Et maintenant arrive, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Qu'a dit notre Seigneur dans l'ordre missionnaire, verset 15 de Marc 16, allez dans le monde entier. Il est d'abord écrit, allez à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est acte 1, 8. Et enfin, ensuite, allez dans le monde entier. Pour vous montrer que cela a un rapport avec la filiation, je lis le psaume 2, versets 11 et 12. Psaume 2, versets 11 et 12. Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Verset 12. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Quelle prophétie puissante. Pourquoi est-il écrit? Veillez avec crainte et tremblement à ce que votre salut soit accompli. Pas par crainte d'un châtiment. Il y a une grande différence entre la crainte et le respect. Je suis reconnaissant à Dieu pour la précision de notre langue. Dans certaines langues, il n'y a qu'un seul mot pour cela. Le respect devant Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant, devant sa parole et devant tout ce qu'il a fait et continue de faire. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Psaume 2, verset 12, verset 11. Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Nous remarquons qu'il ne s'agit pas ici de crainte d'un châtiment, mais du saint respect. Ainsi, dans Matthieu 3, il nous a montré littéralement et mot pour mot que Dieu est esprit en tant que Père. C'est uni à sa révélation personnelle dans la chair afin de nous unir à lui-même tel que nous sommes dans la chair en Jésus-Christ, afin de nous intégrer dans la famille de Dieu et de faire de nous ses fils et ses filles. Cette parole n'est pas destinée à être discutée, mais à faire reconnaître la signification liée à l'histoire du salut. Jésus était et est Emmanuel. Mais ici, ce qui s'est réellement passé est représenté de manière figurée. L'Esprit est venu sous la forme d'une colombe. Ce n'est pas la colombe qui a pris la forme de l'Esprit, mais l'Esprit qui a pris la forme d'une colombe. Lisez Genèse 8 à partir du verset 8 et vous comprendrez le contexte. Le déluge s'abattit sur la terre. Laissez-moi lire, ce sera mieux. Nous verrons alors pourquoi Dieu a utilisé ces images bibliques pour nous montrer quelque chose. Non seulement pour le faire écrire, mais pour nous faire comprendre de quoi il s'agit. Genèse 8, verset 8. Il lâcha la colombe pour voir si les eaux s'étaient retirées de la surface de la terre. Verset 9. Mais la colombe ne trouva nulle part où poser son pied et elle retourna vers lui dans l'arche. Car les eaux couvraient encore la surface de toute la terre. Il étendit la main, la saisit et la ramena vers lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 jours, puis il fit sortir de l'arche la colombe une seconde fois. Verset 11. À la fin du jour, elle revint vers lui au temps du soir. Alléluia. À la fin du jour, elle revint vers lui et voici, elle avait dans son bec un rameau d'olivier frais. Mes amis, mes bien-aimés, ces quelques versets nous en disent plus que nous ne pouvons en supporter aujourd'hui, ici. Dans Genèse 6, il est écrit que Dieu était en colère et qu'il regrettait d'avoir créé les hommes, car leurs voies et leurs actions étaient mauvaises et ils suivaient leur propre voie. Genèse 6, 6. Il dit dans sa colère, « Je regrette d'avoir créé l'homme. » Puis vint le déluge et maintenant la colombe fut envoyée. La colère s'était apaisée. Le châtiment était venu, le jugement avait été exécuté. La colère de Dieu était apaisée. La colombe revint alors une deuxième fois et rapporta une feuille d'olivier fraîche pour montrer que la colère est passée. Le déluge n'est plus là. Maintenant, tout peut recommencer. Lorsque l'Esprit de Dieu descendit ici, le Seigneur voulait nous dire, ma colère s'apaise. Mon jugement est rendu. Et le moment vient où le même esprit viendra aussi sur vous les racheter. Et cela s'est produit le jour de la Pentecôte. Dieu a utilisé des images, des exemples pour nous montrer certaines choses. Mais continuons notre lecture au chapitre 17 de Matthieu, où se trouve le passage bien connu que nous avons déjà lu. Ici, certains, à savoir tous ceux qui étaient présents, ont été enveloppés dans la nuée de gloire. Donc, pas seulement un, à savoir le Fils de Dieu, mais ceux de l'Ancien et ceux du Nouveau Testament qui étaient présents. Matthieu, chapitre 17, verset 2. Et il fut transfiguré sous leurs yeux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Matthieu 17, verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Verset 4. Pierre prit La parole est dit à Jésus. Seigneur, c'est bien d'être ici. Si tu le veux, je veux dresser ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 5, tandis qu'il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et une voix se fit entendre dans la nuée, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Jusqu'ici, cette nuée de gloire couvrait tous ceux qui étaient là et à la fin, il est dit, écoutez-le. Non pas un homme, mais écoutez celui qui nous parle, qui marchait au milieu de cette chandeliers d'or. Et ceux qui lisent cette description pensent au chapitre 1 de l'Apocalypse, où la même description nous est donnée. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Apocalypse 1, verset 16. Je n'exagère pas en disant ici dans son corps de chair. Il a vécu la glorification, la transfiguration, le changement, tel que nous vivrons la transfiguration au moment du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Il est question ici de la nuée, de la gloire, de la transfiguration. Quand Dieu est présent, il n'y a pas que des paroles. Il doit y avoir un effet. Et cet effet se produit lorsque nous croyons et lorsque nous avons confiance. Et non pas seulement lorsque nous entendons et disons, bon, cela s'est passé à l'époque. Mais lorsque nous croyons que cela se passe avec nous. Nous continuons à lire au sujet de la nuée, puis au sujet de la gloire et de la lumière. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons les chapitres 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Après ces paroles, il fut élevé devant leurs yeux. Une nuée le déroba à leur regard. Pas n'importe quelle nuée, mais la nuée de gloire. La nuée surnaturelle, la lumière dans laquelle il était auparavant. Il a dit, je viens de Dieu. Et je retourne à Dieu, Jean 16, 28. Il est retourné dans la lumière. Lisons à ce sujet, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3. Actes, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et approchait de Damas, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba face contre terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il demanda, qui es-tu, Seigneur? Et celui-ci répondit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur, dont nous savons qu'il est assis à la droite de sa majesté, de Dieu en tant que souverain sacrificateur, ce même Seigneur qui est avocat, qui est médiateur, celui-là même qui est roi, sacrificateur et prophète, celui-là même qui n'est pas lié par l'espace et le temps, il peut se révéler comme il veut, quand il veut et où il veut, et à tous ceux qui ne s'en irritent pas. Saul, sur le chemin de Damas, entouré d'une lumière éclatante, et la question est, qui es-tu, Seigneur? Et la réponse, je suis Jésus. Dans la même lumière où il était auparavant, dans la même gloire, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La forme de sa révélation peut changer, mais il reste le même pour l'éternité. Il peut être sacrificateur, prophète, roi et tout, tout, tout. Mais il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, nous le décrit un peu plus en détail. Acte 22, le verset 6. Voici, ici c'est le verset 6. Acte 22, verset 6, oui, exactement. Or, cela s'est passé là comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas à midi. Une lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Verset 7. Je tombai à terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Au verset 8, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Cela ne figurait pas dans le premier récit. Le même Jésus qui marchait en Galilée, qui était à Nazareth. Verset 8, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Verset 9, mes compagnons percevaient bien la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait. Il est également possible que la voix retentisse très fort, et que seul celui à qui elle s'adresse l'entende. Nous pouvons tous être assis par centaines sous l'écoute de la même prédication, la même proclamation. Ce qui importe, c'est que le Seigneur parvienne à s'adresser à toi, à te parler personnellement et à savoir, c'est l'heure que le Seigneur à préparer pour nous parler. Étienne a vu ce même Jésus comme le Fils de l'homme à la droite de la gloire de Dieu. Nous lisons à ce sujet dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 et 56. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56, et s'écria, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Pourquoi est-il écrit ici Fils de l'homme? Voyez-vous combien il est important de savoir où se situent les concepts. Fils de Dieu, sauveur, rédempteur, fils de l'homme, prophète, ministère prophétique, fils de David, roi, régner, gouverner, tout à sa place. Ici, le règne n'a pas encore commencé. Il ne peut pas être encore roi et siéger au milieu du trône. Ici, il doit être à la droite de la gloire de Dieu. Le texte dit littéralement, je levai les yeux vers le ciel et je vis la gloire de Dieu. Acte 7, 55. Qu'a vu Étienne? Nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Timothée 6, verset 16, personne ne peut voir Dieu et aucun homme n'a jamais vu Dieu, car Dieu est esprit et il habite une lumière que nous ne pouvons pas pénétrer. Qu'a-t-il vu? Il a vu la gloire de Dieu qui enveloppe Dieu, dans laquelle Dieu est enveloppé. Et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu en tant que fils de l'homme. Pas en tant que roi, pas en tant que juge, mais en tant que fils de l'homme à la droite de Dieu. Et savez-vous que lorsque nous passons au chapitre 1 de l'Apocalypse, Jean écrit, Apocalypse 1, verset 13, « Et je vis sept chandeliers d'or, et quelqu'un qui marchait au milieu d'eux, semblable à un fils de l'homme. » Le mot « fils d'homme » n'apparaît pas une seule fois dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, du verset 1 à Judas, le dernier verset, pas une seule fois. Mais il réapparaît dans l'Apocalypse. Car c'est le passage prophétique qui y est traité. Dans l'évangile, selon Matthieu, l'expression fils de l'homme apparaît au moins 26 fois. Mais relisez combien de fois l'expression fils de Dieu apparaît. Relisez. Cherchez bien, cherchez bien, cherchez bien. Et quand vous aurez lu tous les chapitres, les 28 de l'évangile de Matthieu, vous pourrez me le dire si vous avez trouvé. À maintes reprises, le Seigneur a fait référence à lui-même en tant que fils de l'homme. Car le fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Et alors vous verrez le fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et dans une grande gloire. Et le fils de l'homme reviendra, etc. Toujours le fils de l'homme, le fils de l'homme. Parce qu'à l'époque, les hommes ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était et ce qu'il est et qu'il a dû accomplir sa tâche, comme l'a dit Moïse, et être un prophète. Deutéronome 18, 15. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 24, puis dans le chapitre 25. Et vous verrez comment est-ce que la gloire de Dieu est de nouveau mentionnée et que le Seigneur de gloire vient dans sa gloire. Matthieu chapitre 24, verset 29. Matthieu chapitre 24, verset 29. Mais aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Au verset 30, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il est donc question ici du Fils de l'homme qui viendra avec une grande puissance et une grande gloire sur les nuées du ciel. Lisons Matthieu 25, verset 31. Il est écrit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32, toutes les nations seront alors rassemblées devant lui. Nous parlerons encore de ces sujets, car ils font partie de la venue du Christ. Et il est très important que nous puissions classer les différentes venues, sinon nous risquons de tout mélanger. Les prophéties bibliques doivent être classées par l'Esprit de Dieu et redonnées de cette manière, sinon nous risquons d'attendre que ce qui doit se produire lors de la troisième venue se produise lors de la deuxième, et nous serions surpris que cela ne se produise pas. Mais continuons notre lecture dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 7, qui est également très connu de nous tous. Voici, il vient avec les nuées. Les yeux de tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. On pourrait également lire les passages correspondants de l'Ancien Testament et nous le ferons plus tard. Il s'agit ici de la nuée de gloire. Le Seigneur est monté au ciel sur la nuée et il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Lisons Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Ici aussi, il s'agit du fait qu'il a été vu sur la nuée. Nous avons parlé de la gloire qui est apparue, de la nuée, de la colonne de feu. Nous avons parlé des différentes choses qui nous ont été témoignées dans différents contextes, que ce soit par Moïse, par Ézéchiel, par Salomon ou par les prophètes, ou que ce soit. Il s'agissait de différentes révélations surnaturelles de Dieu. Moïse a vu un feu dans un buisson ardent. Pourquoi? Pourquoi un buisson épineux? Dans la malédiction que Dieu a prononcée dans Genèse 3, il est dit, des épines et des ronces couvriront le sol. Dieu voulait dire ici, à travers le buisson épineux que Moïse a vu, la malédiction sera levée, le mal sera réparé. La malédiction sera ôtée. Aussi seulement nous pouvions prendre toutes ces images, tous ces exemples pour les exposer correctement. Continuons. Apocalypse chapitre 21, nous approchons du but. Apocalypse chapitre 21. Encore une parole connue, la ville sainte descend du ciel. Au verset 23, il est écrit, chapitre 21, verset 23, Apocalypse. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Avons-nous tous lu la gloire de Dieu revient au premier plan? Et qui est le rayonnement de cette lumière, de cette gloire de Dieu? Je relis. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'avait pas besoin de soleil, ni de lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclairait, et l'agneau était son flambeau. Quelle parole merveilleuse! Jésus-Christ est la forme visible de la révélation du Dieu invisible. Personne ne saurait à quoi ressemble Dieu, qui est Dieu, ce que Dieu veut, si Jésus-Christ n'avait pas été révélé dans la chair. Beaucoup ont parlé de Dieu. Beaucoup ont prophétisé, mais un seul a accompli la prophétie. Un seul était celui en qui la prophétie s'est accomplie. Un seul qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Ainsi, la gloire de Dieu donne la lumière, mais l'agneau en est le rayonnement. Alléluia! Loué soit notre Dieu. Nous voyons qui est Jésus. Dans Matthieu 16, le Seigneur a demandé, au verset 13, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et les réponses sont encore plus variées aujourd'hui qu'à l'époque. Les uns disaient Jean-Baptiste, Jérémie, et d'une manière ou d'une autre, Élie, l'un des prophètes. Puis il demanda à ses disciples, « Mais vous, qui dites-vous que je suis le Fils de l'homme ?» Alors vint la réponse puissante de la bouche de Pierre. Et le Seigneur dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, au verset 5, pour le confirmer encore une fois. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus là-bas de nuit et l'on n'aura plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil car Dieu le Seigneur les éclairera. Oui, qui va maintenant éclairer? Au chapitre 21, verset 23, et il est dit, et leur lampe, c'est l'agneau. Et ici, il est écrit, au verset 5, et l'on n'aura besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car Dieu le Seigneur les éclairera. Alléluia. Oh, comme c'est merveilleux. Tout se met en place et tout se rejoint à la fin. Cela vient de Dieu. Est sorti de Dieu, est ici de Dieu et retourne à Dieu afin que Dieu soit tout en tous et en tous. Pour toute éternité, un être humain ne peut pas expliquer cela. À votre avis, combien cela a-t-il été difficile de formuler cela et de le mettre en parole, en mots et de l'écrire? Et je remarque combien il est difficile d'exprimer cela. Je vais vous lire les premiers versets du chapitre 22. Et vous verrez alors de quelle manière la préparation a lieu. Il est dit dans Apocalypse chapitre 22 au verset 1. Il me montra ensuite un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a ici un trône, mais deux concepts restent en suspens. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Qu'a dit notre Seigneur? Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, verset 23. Pourquoi? Parce que le Père s'est révélé dans le Fils. Quiconque cherche Dieu ailleurs que dans le Fils ne l'aura jamais pour Père. Seul celui qui a reconnu le Fils de Dieu pourra avoir Dieu pour Père. Car le Père s'est révélé dans le Fils. Je continue ma lecture. Verset 2. Apocalypse 22, verset 2. De chaque côté du fleuve, à mi-chemin entre celui-ci et les rues de la ville, se trouvaient des arbres de vie qui portaient 12 fois des fruits. Chaque mois, ils donnaient leurs fruits et les feuilles des arbres servaient à la guérison des nations. Verset 3. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et le trône de l'agneau seront dans la ville. Et maintenant, voici ce qui suit, verset 3. Et ses serviteurs, oui, quels serviteurs? Et ses serviteurs le serviront. Avant cela, il est question du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Qu'a dit Jésus dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 21? Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le trône dans le ciel est le trône du Père. Dans l'évangile selon Matthieu, nous avons ensuite lu Matthieu 25, verset 31, et il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est le trône de David, lorsqu'il commencera à régner sur le monde entier. Mais je continue ma lecture, car il y a encore de belles choses. Verset 3. Et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Verset 4. Oui, oui, oui. Mais s'il vous plaît, quelle face ils verront s'il y en a deux? Pardon. Et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Nous voyons ici que le nom du Père est aussi le nom du Fils. Et son nom sera écrit sur leur front. Mes chers amis, si nous avions lu cela à un professeur de théologie, il aurait pris la fuite. Il ne serait plus ici, à moins que Dieu ne l'ait saisi. Et c'est bien le genre de personnes que nous souhaitons voir dans nos assemblées, dans nos réunions, des personnes qui sont saisies par Dieu. Dernier passage biblique tiré du prophète Ésaïe, chapitre 4, verset 5. Ésaïe, chapitre 4, verset 4. Il est écrit, quand le Seigneur, je lis à partir du verset 4, quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion et aura purifié Jérusalem du péché de son peuple, par l'esprit du jugement et par l'esprit de purification. Verset 5. Alors, le Seigneur créera sur toute la surface du mont Sion et sur les assemblées qui s'y trouvent une nuée pendant le jour et une lueur comme un feu pendant la nuit. Car l'éclat du Seigneur, la gloire du Seigneur sera une protection et un bouclier pour tous. Alléluia! Loué soit notre Dieu. Il en sera ainsi lorsque le Seigneur achèvera son œuvre. Remarquez-vous la concordance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La gloire du Seigneur sera alors un bouclier sur tous. Le Seigneur est lumière. Le Seigneur est protection. Il est devenu tout pour nous, tout en toutes choses. Deviens lumière, car ta lumière est venue. Et la gloire du Seigneur resplendit sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Dieu nous a donné la lumière. Pas une lumière, mais la lumière. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jean a rendu témoignage à la lumière. Jean 1, verset 7. Il n'était pas lui-même la lumière, il rendait témoignage à la lumière. Verset 8, Jean 1. Cette lumière est venue dans le monde pour éclairer tous ceux qui viennent à lui. Et cela correspond à la parole de l'évangile de Jean que notre Seigneur a proclamé à haute voix. Jean 8, verset 12. Celui qui me suit, il ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Soyons reconnaissants que le Seigneur se soit révélé dans la diversité. Ici, quelqu'un l'a vu comme le Fils de l'homme. Là, quelqu'un l'a vu dans la lumière éclatante. Quel que soit le regard avec lequel on le voyait, il avait une tâche précise. Il doit aussi être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et pourtant, il reste le Seigneur. Il est sauveur. Et pourtant, il est roi. Même s'il n'a pas encore pris possession de son royaume. Tout est ordonné. Tout arrive en son temps. Et je me réjouis que le Seigneur nous ait donné en ces jours, par la révélation prophétique de sa parole, la lumière et la clarté sur tous les liens qui existent dans les Saintes Écritures. Je ne sais pas s'il y a eu un temps sur terre où le dessein de Dieu a été révélé aussi profondément qu'à notre époque. Remercions Dieu pour ce qu'il a fait et vivons ce que d'autres ont vécu afin de ne pas penser à nous-mêmes. Oui, ils ont eu de la chance, ils ont vu, ils ont entendu. Crois au témoignage qui nous a été laissé dans la parole de Dieu et compte sur le fait que le Seigneur se révélera à toi aussi. Mais ne lui dis pas comment, car il n'entrera pas dans ce débat. Dis-lui seulement, Seigneur, révèle-toi à moi. Cela suffit. Et crois qu'il le fera. Laisse-lui le reste. Il sait comment il le fera. Il n'est pas nécessaire de le lui dire. À son saint nom, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration dans toute éternité. Amen. Amen. Levons-nous et chantons, nous rendons gloire à Jésus seul. Nous rendons gloire à Jésus et à lui seul et proclamons son amour. Et proclamons son amour. Et proclamons son amour. Nous rendons gloire à Jésus seul. Et proclamons son amour glorieux. Inclinons nos têtes. S'il y en a parmi vous qui ont encore du mal à croire, mais qui ont néanmoins dans leur cœur le désir de croire, vous pouvez maintenant en faire l'expérience. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur. Il se révélera à vous. Il a fait cette promesse. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Jean 14, 19. Mais vous, vous me verrez. Le Seigneur a marché avec les disciples d'Emmaüs sous une apparence différente. Ils ne l'ont pas reconnu et lui ont demandé, Luc 24, 18, « Es-tu le seul étranger qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» Il peut se révéler comme il le veut. Après la résurrection, Marie pensait qu'il était le jardinier dans Jean 20, 15. Il peut se révéler et se manifester de multiples façons. Mais je vous dis une chose, chaque fois, nous le reconnaissons à sa voix. Et sa voix est sa parole. Si quelqu'un parle du feu et s'écarte des paroles de Dieu, laissez-le partir. Le Seigneur sera toujours en accord avec sa parole. Il parlera la même langue, le même langage. Dira toujours la même chose et restera le même éternellement. Père céleste, nous venons ensemble devant ta sainte face. Nous te voyons dans une multitude de révélations et nous te voyons néanmoins comme un seul Dieu, constitué d'une seule personne, comme celui qui a créé tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible. Tu es créateur, conservateur, juge, sauveur, rédempteur. Tu es tout en tous. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions tout particulièrement d'avoir renoncé à ta majesté et à ta gloire parce que tu désirais nous faire participer à ta gloire, nous rendre éternels. Oui, nous donner la vie éternelle par grâce et faire de nous tes fils et tes filles. Fais-nous croire tout cela de tout notre cœur et le voir dans la perspective du dessein du salut. Ô Dieu, ne nous laissons pas aller à des réflexions intellectuelles, Seigneur fidèle, mais croyons comme l'Écriture l'a dit. Nous te remercions de pouvoir croire ce qui nous est attesté dans l'Ancien et le Nouveau Testament. À la fin, tout reviendra à toi, Dieu Tout-Puissant, et nous serons avec toi pour toujours. Tu habiteras parmi nous, tu seras notre Dieu, et nous serons ton peuple. Seigneur fidèle, nous te remercions pour ce jour et nous te prions que ta parole pénètre profondément en nous, que cette consécration et cette dévotion fasse de nous un sacrifice total sur ton autel et que nous puissions dire de tout cœur que ta volonté soit faite dans ma vie. Me voici, prends-moi tel que je suis. Seigneur fidèle, que nous ne le disions pas seulement, mais que nous le pensions au Seigneur, que tu puisses nous donner d'accomplir ce que tu veux. Accorde-nous le vouloir et le faire. Nous te remercions encore une fois pour ta parole précieuse et sainte. Nous te remercions d'être apparu dans la lumière dans notre génération également. Dans la même lumière où tu es apparu à Paul, tu es apparu à frère Branham. Tu as fait de lui aussi un instrument choisi pour les élus. Je t'en remercie. Seigneur bien-aimé, accepte-nous tous. Aide-nous à surmonter notre incrédulité au Seigneur, afin que nous soyons rassemblés dans la foi en toi, sous l'écoute de ta parole, afin que tu puisses agir et confirmer ta parole. Nous t'en remercions pour cela au nom de Jésus. Amen.